Waouh! Je me rappelle quand j'ai découvert ce chant, c'était au Congrès mondial d'évangélisation à Cape Town. On l'a chanté avec un groupe un peu d'accompagnement classique. En même temps, il y avait un groupe africain et en même temps, il y avait un orchestre symphonique et on était de tous les pays du monde. Et j'ai dit, un jour, ça sera comme ça au ciel et encore mieux. Mais je pense que vous aurez une place à la chorale du ciel. Je voudrais juste vous remercier pour votre accueil, votre gentillesse et votre bienveillance. Ce n'est pas facile d'être orateur devant un public comme vous, mais je suis très reconnaissant et très touché par vos contacts, votre gentillesse, les échanges qu'on a pu avoir en dehors de la prédication. Donc vraiment merci de tout cœur pour votre gentillesse et votre accueil. Je vois que... On, off. Je vois que j'ai touché à une icône en nous disant ne faisons pas comme Moïse. Regardez dans vos Bibles, Exode 34 à partir du verset 29. Je vous laisse le temps de chercher. On a souvent les versets sont affichés à l'écran, puis on ne se sert plus de nos Bibles. Enfin, vous pouvez regarder sur vos téléphones portables aussi, hein. Ça compte. Moïse, donc Exode 34 à partir de 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna à tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont du Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Puis un deuxième texte, c'est celui que la sœur a cité dans 2 Corinthiens 3, 13. Ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Je pense que vous vous souvenez de cet épisode, hein, Moïse qui passe 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï tout seul avec Dieu. Nous, on serait content de passer 40 minutes. Hein. Une expérience évidemment surnaturelle. Et quand il redescend, il est tellement illuminé par la présence de Dieu que les autres ne peuvent plus le regarder en face. Nous, quand on ne peut plus regarder les autres en face, c'est pour autre chose, hein. Au point que Moïse est obligé de mettre un voile sur son visage. Mais c'est Paul qui nous montre qu'il y a une autre facette de cette histoire. Parce que Paul nous dit que Moïse a mis un voile sur son visage pour qu'on ne voit pas que sa communion avec Dieu n'était plus celle qu'elle était au début. Au début, Moïse a mis son voile pour ne pas gêner les Hébreux. Mais après, il a mis le voile pour pas qu'on voit qui il était vraiment. Moïse a mis un voile pour que les autres ne remarquent pas que sa communion avec Dieu n'était plus celle qu'elle était quand il était redescendu de la montagne. En fait, vous savez quoi ? Moïse a dissimulé sa véritable identité. Ta vraie personnalité. Le deuxième cercle que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la repentance continue. Parce que nous avons besoin. Si nous voulons garder cette intimité avec Christ, si nous voulons que le Seigneur puisse, lui, nous regarder en face, nous avons tout le temps besoin de revenir à la croix. Je vais vous dire, pendant que vous chantiez, j'ai dû dire au Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. À plusieurs reprises, juste avant de donner le message. Je suis confondu de la nature profonde de mon péché. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de revenir à la croix. Notre véritable identité, c'est celle que Dieu voit. Notre vraie vie, ce n'est pas celle que les autres voient quand nous sommes. Par exemple ici, ma vraie identité, vous ne la voyez pas. Et ma vraie véritable identité, c'était quand j'étais assis sur le siège et que j'ai demandé pardon à Jésus. Mais là, je suis dans mon rôle et on ne sait pas qui je suis. La véritable identité, ce n'est pas quand nous exerçons nos responsabilités. Ce n'est pas quand nous prêchons. Ce n'est pas quand nous avons du succès. L'identité pour Dieu, c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur quand nous sommes tout seuls, devant notre écran d'ordinateur, seul avec notre femme et nos enfants, au volant, seul. Ah non, pas vous, hein, mais moi. Ma femme me dit toujours, chérie, pourquoi ? C'est vrai, pourquoi ? Parce que je suis un pécheur et que j'ai besoin de me repentir. Toi aussi, j'ai l'impression, il y en a qui sourient là. Non, non, je ne cite personne, on blague. Mais quand il n'y a pas de témoin, qui sommes-nous vraiment ? Le danger pour nous, pour chacun de nous, c'est de porter un voile et de cacher la réalité de notre vie. Nous pouvons le faire vis-à-vis des autres, mais ça ne marche pas dans notre relation avec Dieu. Si nous voulons avoir une vie spirituelle, une communion profonde avec Dieu et exercer un leadership à l'image de Christ, le Saint-Esprit doit pouvoir parler à notre conscience et nous amener à la croix chaque fois que nécessaire pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Et le péché produit toujours la même réaction. Souvenez-vous, Adam et Ève. Première chose, se cacher, se dissimuler. Du coup, tout ce que nous faisons, que nous cachons, que nous dissimulons, que nous ne voulons pas montrer, que nous ne voulons pas admettre, relève et appartient aux ténèbres et doit absolument être considéré comme péché. Et le péché, on va toujours mettre un voile dessus, un voile de respectabilité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'identité d'un leader, d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un conducteur de louange ? Un voile ? Où on pourrait le Seigneur pourrait le regarder dans les yeux. Le problème, c'est qu'un péché peut commencer petit, mais s'il n'est pas réglé rapidement, il drainera et dévorera toute notre énergie spirituelle. Parce que le péché conduit à la comédie, le péché conduit à l'irréalité, le péché conduit à la duplicité, le péché conduit au désir de soigner les apparences. Certains péchés ne sont que la recherche de soi-même. L'image que nous voulons donner et que nous désirons que les autres reçoivent. J'ai lu récemment que les recherches de la mission Crossway sur l'épuisement professionnel révèlent que les causes d'épuisement pastoral sont à peu près similaires aux hommes chrétiens en général. Pression au travail, congés insuffisants, besoins financiers, pression à la maison. Mais, dans un domaine, chez les pasteurs, il y a 28% des pasteurs qui ont cité les critiques des autres comme facteurs contre 18% des laïcs qui y ont fait référence. Nous souffrons des critiques. On verra tout à l'heure que c'est aussi un problème, une des raisons pour lesquelles nous cachons les choses, parce que nous ne voulons pas être critiqués. Mais nous sommes préoccupés par l'image que nous avons de nous, que nous donnons aux autres. Peut-être que le péché, c'est aussi le manque de vérité et de sincérité. C'est dur, c'est marrant de dire à des chrétiens que peut-être nous pratiquons le mensonge. Je me rappelle une fois où j'ai changé mon smartphone. Et je suis allé voir mon mentor et le directeur de ma mission et je lui ai dit, Nicolas, j'ai l'intention de changer mon smartphone. Sauf que le smartphone était dans ma poche depuis 2 jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pas pourquoi j'ai menti. Je suis descendu dans mon bureau et j'avais un message à faire. J'ai commencé à faire le message. Et le Seigneur a dit, Alain, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure à Nicolas? Tu as dit que tu vas changer ton smartphone. Il est déjà dans ta poche. Ouais, Seigneur, un jour ou deux, ça ne fait pas quand même une grosse affaire, une grosse différence. Alain, tu n'as pas dit la vérité. Ouah, Seigneur, oui, je sais, je reconnais. Bon, ce n'était pas tout à fait la vérité, ouais. Alain, tu veux que je t'emploie? Tu veux prêcher? Et tu ne veux pas admettre ton péché? J'ai dû remonter chez mon ami. Et il préparait un message et il ne fallait jamais le déranger quand il préparait un message. J'ai jamais remarqué que les marches étaient aussi hautes pour monter à son étage. C'était... Je suis arrivé chez lui, j'ai frappé, j'ai dit, écoute, je suis désolé. Je te demande pardon, je t'ai menti. Il a dit, mais Alain, je dis non, non. C'est seulement mon cœur qui est pourri. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Et pour une raison compliquée, parce que je suis tordu, je n'ai pas voulu dire la vérité. Et toi, quand est-ce que tu as menti, dissimulé? Fais comme Moïse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bien sûr, nous pouvons dire, ouais, mais ça c'est notre vie avec le Seigneur, hein, c'est notre vie privée. Hein. C'est les Africains qui m'ont invité une fois en me disant, Alain, fais-nous un message sur la vie privée de l'évangéliste. Pas mal, hein? La vie privée. Ouais, ouais, ouais. Ces choses qu'on cache, ces choses qui sont là pour nous tout seuls. Et il est dit que Dieu, 1 Jean 1,5, que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et nous devons pouvoir courber la tête à chaque suggestion du Saint-Esprit pour appeler péché ce qui doit être appelé péché dans notre vie, pour ne rien cacher et ne rien excuser. C'est pour ça que j'ai mis que sur ces 2 premiers cercles avec lesquels Dieu nous façonne, c'est le Saint-Esprit qui est là. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans le silence, parce que c'est dans le silence aussi que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Vous comprenez? Parfois, nos péchés sont tellement gros que les gens disent autour de nous, « Ça suffit, tu es trop dur avec nous, ou tu t'es mis en colère, pourquoi ?» Là, oui, on est obligé. Mais pour des choses plus fines, plus délicates, nous avons besoin d'être dans l'écoute de Dieu pour qu'il mette en lumière ce qu'il a besoin de faire. Il y a un lien évident entre le silence, l'écoute de Dieu et la conviction de péché. Tous les deux sont conduits par le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est ça, une des questions clés de ma vie spirituelle personnelle, c'est de pouvoir écouter la voix de Dieu quand il me dit « Alain, tu as dit tout à l'heure, « Oh, c'est pas pour critiquer, mais quand je t'ai entendu parler, mon gars, tu as critiqué. Oh, Seigneur !» Comment est-ce que tu as regardé cette femme tout à l'heure, Alain? Ça ne m'a pas plu. Tu n'étais pas digne. Oui, Seigneur. Vous savez que le rôle du Saint-Esprit, c'est de défendre les intérêts de Dieu dans notre vie. Et si nous l'écoutons, il va dire stop. Ça, c'est derrière le voile. C'est ce que tu caches. Et si nous marchons, et si nous voulons marcher dans la lumière, à l'exemple de Christ, nous devons refuser de cacher quoi que ce soit. Et si nous nous laissons toucher par le Saint-Esprit, nous allons découvrir que le péché est beaucoup plus infiltré dans nos vies que nous le pensons. Nous devons arrêter de nous cacher derrière des masques. Nous devons cesser de nous excuser, de nous justifier. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, renoncer à notre manière pharisaïque de considérer notre vie spirituelle et notre réputation. Nous devons être transparents vis-à-vis du Seigneur, transparents vis-à-vis des autres, et ne rien conserver de malveillant dans nos cœurs. Il est urgent que nos vies soient ouvertes à la voix de l'Esprit pour qu'il nous convainque de ce qui n'est pas encore à la conformité à Jésus-Christ. Les péchés de certains sont évidents, dit Paul, avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes, et celles qui ne le sont pas peuvent rester cachées. Paul a raison. Chez certains, on voit tout de suite ce qui cloche. Manque de compassion, esprit de critique, jugement, etc. Mais chez d'autres, il y a un voile qui fait qu'on ne sait pas quels sont les problèmes et que peut-être la personne elle-même ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut mettre un voile et ne pas faire comme Moïse ? Nous pouvons mettre un voile sur notre passé. Mais ça, j'en parlerai demain. Donc vous vous rappelez que quand on pense à l'image du voile de Moïse, on peut mettre un voile sur son passé et j'en parlerai demain. Mais nous pouvons mettre aussi un voile sur le présent. Il y a ceux qui vivent en dissimulant les choses, qui ont des activités clandestines ou des attitudes qu'ils s'efforcent délibérément de cacher à leur cercle d'intime. Le mot qui définit cette démarche correspond à celui de dissimulation. Dissimulation d'un problème particulier, d'une addiction, d'une pratique honteuse ou d'une mauvaise habitude. Un frère est dans le bureau le soir, sa femme pense qu'il travaille ou qu'il prépare un message. Il regarde des films porno. On estime aux USA que plus de 50% des serviteurs de Dieu ont des problèmes avec la pornographie sur Internet. Mon frère, est-ce que tu mets un voile sur cette question dans ta vie ? Ou est-ce que tu fais comme Moïse ? Est-ce que tu te caches de tout le monde avec un problème qui aurait pourtant besoin d'être résolu ? On peut mettre aussi un voile sur la réalité du péché. Et c'est sans doute le pire. Quand on ne se rend même plus compte que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense est péché. À force de nier, à force de refuser les choses. C'est Job qui pose une très très bonne question. Job, dis-je au Seigneur, ai-je caché comme Adam afin d'enfouir mes fautes en moi-même ? Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je les ai plus vus ? Est-ce que j'en suis plus conscient ? Vous voyez l'importance du silence et de l'écoute de Dieu. Il n'y a que son esprit qui pourrait nous révéler que nous avons enfoui des choses en nous-mêmes, au point, nous-mêmes, de ne plus nous en rendre compte. Je crains que le refus de faire face à la réalité du péché soit un fléau dans nos vies et un fléau dans l'Église. Et je voudrais conclure cette première partie en nous rappelant que ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Et posons-nous la question de Job. Ai-je caché mes péchés comme Adam afin d'enfouir mes fautes en moi-même ? Et pour terminer ce point, un chrétien n'est pas un homme qui se trompe jamais, mais un homme qui est capable de se repentir et de se relever et de recommencer après chaque chute, parce que la vie du Christ est en lui, le réparant tout le temps. Ça, c'est notre espoir. Ça, c'est ce à quoi nous nous accrochons. Il vit en nous. Le Saint-Esprit est en nous pour dénoncer notre péché, mais pour nous restaurer en Jésus-Christ. Amen. Ah oui, on ne dit pas ça ici, hein. Allez, amen. Ouais, c'est tellement bon. Ah, mais dans d'autres milieux, ça part au quart de tour. Hein. La deuxième chose que nous apprend cette histoire de Moïse, c'est que nous avons aussi tendance à mettre un voile sur notre vulnérabilité. Et vous allez voir que la vulnérabilité et le péché sont des cousins germains. Dans cette situation, Moïse ne voulait pas qu'on s'aperçoive qu'il était un homme vulnérable comme tous les autres. Moïse était un héros de la foi, mais un homme qui avait aussi des failles, comme tous les hommes de la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre le succès et la fécondité. Lisez avec moi. Le succès vient du contrôle et de la respectabilité. Une personne qui réussit a l'énergie nécessaire pour créer quelque chose, garder le contrôle, assurer largement son développement. Le succès apporte beaucoup de récompenses et souvent de gloire. La fécondité. Ça, c'est la Bible, hein, afin qu'on porte plus de fruits. Donc la fécondité provient de l'éveil de la vulnérabilité. Les fruits sont uniques. Un enfant est le fruit de la vulnérabilité. La communauté est un fruit d'une crise partagée. Et l'intimité est un fruit qui pousse sur les blessures d'un autre. Rappelons-nous les uns les autres que ce qui apporte la vraie joie n'est pas le succès, mais la fécondité. Je trouve cette distinction entre le succès et la fécondité très importante. Parce qu'elle permet de débusquer deux choses. Notre vision séculariste de la réussite. Est-ce que vous vous réjouissez de votre succès ou de votre fécondité? Grosse différence. Moi, je me réjouis de pouvoir porter les fruits par l'esprit, parce que j'ai été régénéré et transformé et façonné et que je continue à l'être et que je n'ai pas fini et que ça va se poursuivre. Et ensuite, cette différence entre le succès et la fécondité introduit une notion biblique absente de notre spiritualité contemporaine, la vulnérabilité. Et je voudrais méditer dans cette deuxième partie cette question de la vulnérabilité. Nous pouvons utiliser des arguments très spirituels, très bibliques, pour nous cacher de nos faiblesses, de nos limites. Et c'est Paul qui explique ça. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas empli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On connaît tous ce verset, ce passage. Mais comment est-ce qu'on l'applique ? Franchement, est-ce que tu es fier de tes faiblesses? Aïe, ça pique ça, hein, ça pique. Nous sommes dans une société qui n'accepte pas la faiblesse. Et souvent l'Église ressemble à notre société. Et le refus de la faiblesse, c'est une forme de sécularisation. La vulnérabilité, il faut la rejeter, y compris dans notre vie chrétienne, et en particulier dans notre leadership. Vous êtes leader, alors montrez-vous fort. Puis c'est rigolo quand on réfléchit aussi à un certain nombre de chants. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Ouais, j'aime bien les chants triomphe, mais vous comprenez. Votre regard sur votre vulnérabilité est très important. Parce que sans vulnérabilité, il n'y a pas de transparence. Il y a le voile de Paul. Nous devons être vulnérables, en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Ou encore, comme l'a dit Jésus, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Du latin vulnus, blessure, vulnérare, blessé, selon le Larousse, qui peut être blessé ou frappé, qui peut être facilement atteint ou qui se défend mal. Il y a deux synonymes à vulnérabilité, c'est fragile et sensible. La vulnérabilité convoque ces deux notions, qu'il peut y avoir des fêlures dans notre vie et qu'il peut y avoir des choses, des blessures qui nous accompagnent. Ce qui est marrant, c'est que dans le texte de Paul que je viens de lire, Paul utilise 6 fois le mot fragilité et 4 fois le mot faiblesse. Vous vous rendez compte? Voilà quelqu'un qui, contrairement à Moïse, savait se montrer vulnérable. La vulnérable et la faiblesse. D'après vous, est-ce que Jésus était vulnérable? Est-ce que Jésus était faible? Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir en nous. Nous reviendrons sur ce verset. Mais quand nous entendons parler de la faiblesse de Jésus, est-ce que vous croyez que Dieu est vulnérable? C'est intéressant quand on se penche sur la parabole du semeur, qui est la première parabole donnée par Jésus. Voilà ce qu'écrit Alphonse Maillot. Le semeur sortit. Rien n'est plus terne, plus profane, plus habituel que des semailles. Car en effet, il n'est plus question de puissance, de contrainte, d'éliminer les obstacles, même les plus humbles. Dieu accepte d'être plus faible que l'inattention, la distraction, les distractions, plus faible que les faiblesses humaines, plus faible que l'argent et les convoitises. Hey, Dieu, tu es allé semer sur 4 terrains et tu savais, toi, Dieu, que 3 n'en voudraient pas. Ah, oui, ta puissance. Pourquoi avons-nous peur de notre vulnérabilité? Souvent, nous rejetons la vulnérabilité à cause des émotions négatives comme la peur, la honte, le chagrin, la tristesse ou la déception. Mais nier nos sentiments, nos émotions, notre faiblesse est presque devenu une seconde nature. Et nous devons enfiler une armure pour être fort, pour être à l'épreuve des balles. Et on voit comme ça des leaders, on dit « Oh là là, mais celui-là, il n'y a jamais rien qui le touche, il n'y a jamais rien qui l'atteint, je ne pourrai jamais être comme lui. » Il est tellement costaud, il tient par tous les temps, par tous les vents, toutes les attaques. De quoi avons-nous peur? Nous avons peur d'être jugés. Je crains que l'Église de Jésus soit atteinte d'une sérieuse maladie, à propos de laquelle Jésus nous avait pourtant sérieusement mis en garde, le jugement. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la manière dont vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et pourquoi ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? On est tous contaminés par ce truc-là, mes amis. Moi le premier. Tellement facile de juger. Et du coup, on sait qu'on va être jugé, on n'ose pas parler de la réalité de nos combats, on préfère rester derrière le voile. Nous avons peur de la honte, nous sommes terrifiés par ce que les autres pensent de nous. Trop souvent, nous évaluons notre valeur ou à l'approbation que nous recevons des autres. Les autres vont-ils m'approuver ou vont-ils me désapprouver? Qui suis-je si je ne suis pas accepté? J'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup touché, de Brené Brown, qui est une chercheuse, vous pourrez trouver d'excellentes TED Talk. Vous pourrez trouver des petites conférences qui sont traduites en français, où elle parle de la vulnérabilité. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La puissance de la vulnérabilité ». Et j'ai compris et appris que cette femme est aussi une chrétienne authentique. Elle est chercheuse en psychologie. Et elle, dans son livre, elle parle de son éveil à la foi, elle parle de son église, elle parle d'un de ses pasteurs qui est son mentor. Et voilà ce qu'elle dit à propos de la honte. La honte est la peur de perdre le contact avec autrui. Écoutez bien ça. Nous sommes psychologiquement, affectivement, cognitivement et spirituellement programmés pour le contact, l'amour et l'intimité. C'est Dieu qui nous a créés à cette image. Imago Dei. Le contact avec autrui. De même que l'amour et l'intimité. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer le truc. Ah non, j'ai juste la fin de la citation. Le contact avec autrui, de même que l'amour et l'intimité, est ce qui nous fait vivre, ce qui donne un sens à notre vie. La honte et la peur qu'une chose que nous avons faite ou échoué à faire, un idéal que nous n'avons pas atteint, nous rendent indignes du contact avec les autres. Je suis indigne d'amour, d'intimité, de contact. On ne peut pas m'aimer. Je ne mérite pas d'appartenir à ce groupe. Voici la définition de la honte qu'elle a donnée et qui émerge de ses recherches. La honte est l'expérience profondément douloureuse de croire qu'on est défaillant et par conséquent indigne d'amour, d'intimité et de contact avec les autres et avec Dieu. C'est ça la honte. Donc nous ne pouvons pas parler de nos combats. Nous ne pouvons pas parler de nos besoins. Nous ne pouvons pas parler de nos colères, de nos doutes, de nos souffrances, de nos aspirations. Parce que nous pensons que si nous en parlons, nous n'allons plus mériter le contact avec les autres. Et si refuser notre vulnérabilité nous conduisait à pécher ? Plusieurs textes parlent de cœur, de foi, d'amour sincère. La sincérité est la qualité de celui qui exprime ses véritables sentiments, ses véritables pensées, qui ne cache pas la vérité et qui est vrai en toute bonne foi. Comment pouvons-nous être sincères en termes d'amour, en termes de cœur, en termes de foi, si nous ne pouvons pas exprimer les doutes qui vont avec, les inquiétudes, les peurs? Comment pouvons-nous être sincères dans nos relations les uns avec les autres? Si nous cachons et occultons les émotions et notre faiblesse et notre vulnérabilité, si nous sommes dissimulateurs, hypocrites, c'est justement ce qui fait la force des alcooliques anonymes. C'est qu'ils appellent le mal par leur nom. Ils disent, nous, on est des malades de l'alcool. Ils avouent leur vulnérabilité. Et nous, dans l'Église, c'est quoi notre problème? Nous sommes du malades du péché, mais nous n'osons pas en parler. Nous avons peur de dévoiler réalité de nos vies, et nous sommes coincés. Pourtant, la vulnérabilité fait de nous des candidats à la grâce. Vous vous sentez faible? Eh bien, la Bible est claire. Non seulement nous avons le droit d'être faibles, mais nous sommes faibles. Oui, Christ a été crucifié, je reviens à ce verset, à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons par lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers nous. Donc, vous vous sentez faible. Eh bien, tant mieux. La grâce et la puissance de Dieu est pour vous. Votre Seigneur, notre Seigneur, a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais Jésus a déployé toute sa puissance pour le ressusciter. Vous avez honte? Vous avez peur du jugement des autres? Vous vous dites que c'est difficile pour vous si vous parlez de votre situation? Eh bien, plutôt que de vous référer aux autres et de mettre un voile pour pas qu'on voit votre vulnérabilité, voici ce que dit Henri Nouwen. Si nous persistons à écouter avec attention la voix qui nous appelle bien-aimés, ça vous rappelle quelque chose, ça? Ouais, hier soir. Il nous devient possible de vivre notre brisure et notre morcellement, non plus comme un indice de notre peu de valeur, mais comme l'occasion de purifier et d'approfondir la bénédiction qui repose sur nous. C'est notre vulnérabilité, c'est notre faiblesse qui fait de nous des candidats parfaits à recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Et si la vulnérabilité était une force? D'après Brené Brown, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette notion de la vulnérabilité serait le berceau de l'amour, de l'empathie, du courage. L'idée que la vulnérabilité est une preuve de faiblesse, elle dit, est un mythe répandu et dangereux. Quand on passe sa vie à se protéger de la vulnérabilité et à éviter d'être perçu comme trop émotif, on ressent du mépris vis-à-vis de ceux qui sont moins capables ou moins désireux de masquer leurs sentiments et de se faire une raison et de persévérer. C'est bien le cas des chrétiens évangéliques. Nous ne voulons surtout pas qu'on sache ce qui se passe à l'intérieur. Surtout pas faire face à notre vulnérabilité. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Qu'est-ce que dit Paul? Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient de tomber? Je brûle. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Paul prêt à se vanter de sa vulnérabilité. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est solidaire des autres, parce qu'il est compatissant, parce qu'il participe aux difficultés et aux souffrances des autres. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Si dans notre témoignage nous parlons que de la victoire du chrétien, qui ne craint rien, qui a Dieu de son côté, qui n'a jamais peur, qui n'a jamais de doute, il est probable que les gens vous n'ont répondre « Eh bien, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas pour moi. » D'ailleurs, Brené Brown dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que l'on peut entrer en communication, en confiance, en relation avec les souffrances des autres si nous établissons un contact entre, d'une part, notre vulnérabilité et celle des autres. Exactement ce que Paul dit. Vous avez été consolé afin de pouvoir consoler. On doit être vulnérable pour rejoindre les autres, pour les accompagner, pour les aider. Conclusion. Mettre un voile sur notre vulnérabilité est aussi un obstacle à notre leadership à l'image de Christ. Comment voulons-nous être un modèle si nous sommes en acier trempé ? Vous comprenez ce que je veux dire, en acier trempé ? Que rien nous atteint, que on tient dans toutes les circonstances. Cette question du refus de notre propre vulnérabilité sur laquelle nous mettons un voile comme Moïse est pour moi un obstacle très important dans notre progression chrétienne et dans notre leadership à l'image de Christ. Je ne sais pas où est Philippe, mais Philippe se rappelle sans doute qu'il y a 13 ans, j'étais... Ah tiens là, je t'ai vu. C'était la première fois que nous avons réuni les jeunes du R2EC. Il y a combien de temps, Philippe ? 10, plus que ça. 12. Et alors voilà, on s'est retrouvés avec des jeunes... Et les jeunes devaient raconter leur chemin de vie. Et moi, j'ai dit à Raph, mais attends, moi, je suis le mentor, je vais raconter mon propre chemin de vie. Et j'ai commencé, j'ai raconté mon chemin de vie, j'ai raconté ma vie. Mes 20 ans d'épreuves, tous les combats, les difficultés et tout. Et puis après, dans la camionnette, Raph m'a dit, t'as vu les jeunes ? J'ai dit non, j'ai pas vu les jeunes, ils ont quoi les jeunes ? T'as pas vu, mais ils sont tombés de leur chaise. J'ai dit non, j'ai pas vu. Mais il n'y a jamais un leader qui a eu le courage d'ouvrir sa vie profonde et de leur dire par quel combat il est passé pour qu'eux se disent « Ah, mais c'est possible aussi pour moi. » C'est pour toutes ces raisons que nous devons être vrais vis-à-vis de soi, vrais vis-à-vis des autres, vrais vis-à-vis de Dieu. C'est une condition nécessaire à la repentance continue, une condition nécessaire à un leadership à l'image de Christ. Je conclus avec cette pensée d'Henri Nouwen. Nous avons tendance, écoutez bien, lisez-le avec moi, nous avons tendance à ne présenter à Dieu que ces parties de nous-mêmes avec lesquelles nous sommes relativement à l'aise et dont nous pensons qu'elles provoquent une réaction positive. Ainsi, notre prière devient-elle sélective et étroite. Mais pas seulement notre prière, mais aussi la connaissance que nous avons de nous-mêmes, parce qu'en nous comportant avec Dieu comme des étrangers, nous devenons des étrangers à nous-mêmes. Mes amis, si nous faisons comme Moïse, que nous mettons un voile sur notre péché, que nous masquons notre vulnérabilité, nous allons devenir étrangers aux autres, étrangers à Dieu, étrangers à nous-mêmes. Vous êtes des leaders, vous devez être des modèles pour les autres en termes de repentance et en termes d'affichage de votre vulnérabilité. Ne dissimulez plus, soyez authentiques. C'est en ce sens que vous aurez un leadership à l'image de Christ. Je vous laisse avec cette pensée de Swindoll. Les leaders spirituels doivent créer un modèle de confiance en Dieu pour que le peuple apprenne à faire de même. Est-ce que tu as confiance en Dieu pour venir tel que tu es, avec ton péché, continuellement? Est-ce que tu as confiance en Dieu pour venir tel que tu es, avec ta vulnérabilité, et vivre dans cette dépendance, dans ce renouvellement de Christ, pour que d'autres puissent dire « Ah ouais, comme ça je crois que je peux vivre aussi. Comme ça je crois que je peux m'accrocher au Seigneur. » Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous voulons enlever le voile, enlever nos masques. Ça nous fait tellement de bien de savoir que tu nous acceptes tel que nous sommes. Tu nous reçois à la maison du Père tel que nous sommes. Et nous avons besoin de ton esprit, pour être encouragé à changer, à être transformé par toi, par ta vie en nous. Seigneur, tu connais les pensées de chacun. Tu entends les prières muettes. Merci que tu nous accueilles par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, et qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse t'empêcher de nous accueillir les bras ouverts. Nous sommes tes bien-aimés. Nous voulons vivre en transparence avec toi, en transparence avec nous-mêmes, en transparence avec les autres, être vrai et te glorifier. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Amen.